France Culture.
Tout de suite, le journal de la rédaction de Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Un coût élevé pour des résultats économiques modestes, ou quand la Cour des comptes est triste. Ce matin, le pacte du Treille, ce dispositif d'abattement fiscal qu'elle propose, on le verra, de réformer en supprimant notamment tous les mécanismes relevant de l'optimisation fiscale. On parlera narcotrafic à l'occasion d'une réunion en urgence organisée ce matin à l'Elysée. Nous serons par ailleurs en direct de l'Assemblée avec notre invité aujourd'hui pour évoquer la stratégie du Rassemblement National à l'aube de la campagne pour les municipales. Et puis l'actualité à l'étranger. On se rendra notamment à Jérusalem au lendemain de l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU du plan de paix de Donald Trump à Gaza. Parce que le diable a tendance parfois, on le sait, à se nicher dans les détails. Voilà plusieurs semaines déjà que les discussions autour du budget explorent toutes les pistes plus ou moins cachées susceptibles d'aider à l'assainissement des finances publiques et notamment les fameuses niches fiscales. Et c'est ainsi qu'à force de creuser, eh bien la Cour des comptes a fini par publier ce matin un rapport sur un abattement très généreux créé il y a maintenant 25 ans, mais qui n'avait jamais fait l'objet jusque-là de la moindre évaluation détaillée, le pacte Dutreil. Alors de quoi s'agit-il? Ce mécanisme exonère aujourd'hui à 75% de droits de succession la transmission familiale d'une entreprise aux descendants. Or, que nous apprennent les juges ce matin, non seulement que l'efficacité économique de ce dispositif est limitée, que son coût est par ailleurs exorbitant pour les finances publiques, justement, et enfin qu'il ne profiterait qu'aux grandes fortunes. Bref, un rapport accablant, à ce point sévère d'ailleurs que l'institution de la rue Cambon a même été qualifiée d'officine du Parti Socialiste par Renaud Dutreil, l'ex-ministre de Jacques Chirac qui a donné son nom donc à cet abattement. Marie Viano, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que le pacte Dutreil peut se résumer, Marie, à un simple cadeau fiscal qui serait fait donc aux ultra-riches et financé sur le dos des finances publiques?
Alors non, pas tout à fait, mais il y a quand même un chiffre saisissant dans le rapport de la Cour des comptes. 65% du coût du pacte Dutreil profite à 1% des donataires et héritiers, autrement dit ceux et celles qui ont beaucoup à transmettre et à recevoir. Les PME industrielles, qui sont souvent mise en avant pour justifier le bien fondé de ce pacte Dutreil, ne représente que 13% des demandes et des montants. Deuxième enseignement, les entreprises transmises sous pacte Dutreil connaissent en effet moins de restructurations. L'entrée à leur capital d'actionnaires étrangers est plus rare, et c'était le but de cette niche fiscale, mais il y a plusieurs mais. 1. L'écart se réduit dans le temps. Au bout de 7 ans, il n'y a plus de différence avec les entreprises transmises sans pacte Dutreil. 2. Aucun surcroît d'investissement ou de création d'emplois n'a été constaté. Et 3. Le coût de cette niche fiscale est en train d'exploser. Et donc, au regard des effets économiques constatés, il y a un vrai problème. Pendant 15 ans, Bercy l'a estimé à 500 millions d'euros sans que cela puisse être vérifié. En 2025, c'est passé à 800 millions. Or, la Cour des comptes a, elle, constaté, en épluchant les documents elle-même, qu'en 2023, on était plus proche de 3 milliards 300 millions d'euros et en 2024, 5 milliards 500 millions d'euros.
Alors, avec ces propositions, donc la Cour des comptes estime que l'on pourrait diviser le coût de cette niche fiscale par deux, récupérer entre 2 et 3 milliards d'euros de recettes pour les finances publiques. Que proposent exactement les juges et leurs propositions ont-elles seulement une chance, Marie, d'être appliquées?
Alors, les propositions de la Cour rejoignent certains des amendements qui ont été adoptés dans le projet de loi de finances, notamment le fait qu'on ne puisse pas transmettre avec cette niche fiscale les biens non professionnels, comme les yachts, les tableaux. Alors, la Cour a fait d'autres propositions également qui sont plus techniques sur la durée et les montages financiers qui peuvent être utilisés. Elle a ensuite transmis son rapport au ministère des Finances pour savoir s'il avait des remarques à faire. C'est la procédure normale. Et là, silence total. Pierre Moscovici le regrette, président de la Cour des comptes.
Il est assez fréquent que des entreprises ne répondent pas. Il est assez fréquent que des administrations ne répondent pas. C'est dommage. C'est dommage parce que tout simplement, ça a fait perdre 4 semaines. Pendant que se déroulait le débat parlementaire.
Et donc ça a permis de faire adopter la partie recette du projet de loi de finances sans l'éclairage de la Cour des comptes. Était-ce calculé? Bercy ne répond pas davantage à nos sollicitations ce matin. Alors on verra si le Sénat, lui, s'empare des révélations et des propositions de la Cour des comptes maintenant qu'elles sont officiellement sur la table.
Merci Marie Viano. Après plusieurs faits criminels dramatiques ces derniers jours à Marseille et Grenoble, liés au fléau de la drogue, le président Emmanuel Macron avait choisi de convoquer en urgence ce matin une réunion à l'Elysée en présence de plusieurs ministres. Objectif, intensifier la mise en œuvre de la récente loi narcotrafic promulguée avant l'été. Florence Thurme, bonjour.
Bonjour.
Cette loi donc prévoit notamment, Florence, l'installation d'un nouveau parquet national anticriminalité organisée qui sera officiellement créé le 1er janvier prochain.
Oui, un parquet spécialisé inspiré de deux modèles déjà existants en matière de lutte antiterroriste et de délinquance financière. Sa future responsable, Vanessa Perret, était d'ailleurs présente à la réunion de ce matin à l'Élysée. Le nouveau parquet, le PNACO, pour Parquet National Anticriminalité Organisée, s'inscrit dans la loi contre le narcotrafic promulguée le 13 juin dernier. Elle donne des pouvoirs supplémentaires aux préfets qui peuvent par exemple fermer temporairement des commerces soupçonnés de blanchiment, prévoit d'élargir des capacités de collecte de renseignements, mais il existe une réelle inquiétude chez les services d'enquête et les moyens qui leur sont réellement octroyés. Sur le plan carcéral, il y a eu aussi la création des quartiers spécifiques pour les détenus les plus dangereux, à la prison de Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe, et puis la réforme du statut de repenti. Les personnes impliquées dans les crimes de sang peuvent désormais bénéficier d'une réduction de peine en échange de leur coopération, mais on voit bien combien il peut s'agir là d'un sujet sensible. Jeudi, le frère du militant écologiste Amine Kessassi, engagé dans cette lutte contre le narcotrafic, a été abattu à Marseille. À l'instant, sur le perron de l'Élysée, Laurent Nunez vient de parler d'un crime d'intimidation. « Nous sommes à un point de bascule », déclare le ministre de l'Intérieur. Il se rendra jeudi, à Marseille, en compagnie de Gérald Darmanin, son homologue à la justice. « La guerre n'est pas gagnée », vient-il d'indiquer, « mais nous avons remporté des batailles avec ce chiffre de 2000 personnes actuellement mises en examen dans ces dossiers. Pas d'annonce particulière, cela dit, si ce n'est la volonté affichée, volonté donc plus politique que concrète, par le président de la République d'amplifier cette lutte contre le narcotrafic. Emmanuel Macron promet lui aussi d'aller à Marseille le mois prochain.
Merci Florence Sturm.
Rendez-vous politique annuel, le congrès des maires qui s'ouvre aujourd'hui à Paris se tiendra cette année dans un contexte forcément particulier.
Oui, à 4 mois tout d'abord, des échéances municipales en plein brouillard budgétaire ensuite, à l'issue également d'un cycle record de démissions parmi les édiles, sans oublier le sujet de la sécurité justement qui selon une récente enquête arrive aujourd'hui en tête des attentes des Français. Ce sera d'ailleurs le thème de la plénière d'ouverture de cette édition 2025, une priorité partagée par des élus de tous bords. Et pour en parler avec nous et évoquer plus largement donc la perspective de ces élections municipales, invité à présent de la rédaction directe de l'Assemblée, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National et député de la 19e circonscription du Nord. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Et à vos côtés pour vous interroger depuis le Palais Bourbon, Nicolas Balu. Bonjour Nicolas.
Bonjour, bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour monsieur.
Vous avez entendu Florence Turm sur le narcotrafic à l'instant. Emmanuel Macron ira à Marseille au mois de décembre. C'est un thème qui s'invite dans le débat. C'est l'un des grands thèmes des municipales. L'ensemble des élus semble être
d'accord. Oui, c'est un thème important puisque je rappelle que dans un des derniers sondages de l'IFOP, plus de 60% des Français disent qu'ils éliront leur maire en fonction de ce qu'il fera pour lutter contre le narcotrafic dans sa commune. Et 76% de mémoire des Français disent qu'ils jugeront ou qu'ils voteront pour un candidat en fonction de ce qu'il fera dans la lutte contre l'insécurité. Marseille est gangrénée par ce narcotrafic. Moi, je salue l'initiative d'ailleurs de Franck Alizio, notre candidat à la mairie de Marseille, et Marine Le Pen, qui demandait déjà il y a bien longtemps que Marseille soit en état d'urgence, avec un plan d'urgence de lutte contre le narcotrafic. Ils n'ont pas été entendus. Je relève que le président fait, comme le disait d'ailleurs votre journaliste dans son reportage, de la com. Il ne fait rien de concret. Il n'y a pas d'action concrète derrière ce qu'il fait aujourd'hui. Il met simplement en lumière un plan qui a été une loi qui a été votée, mais qui n'apporte pas à ce stade de moyens ni de volonté supplémentaire de s'attaquer au narcotrafic.
Ces municipales, au mois de mars prochain, elles sont envisagées au RN comme une étape essentielle avant la présidentielle, qui chez vous est la reine des élections.
Oui, oui, absolument. C'est une étape importante de l'implantation, de la construction, mais aussi de la façon dont nous démontrons ce que nous savons faire. C'est-à-dire que lorsque nos maires sont élus, il y a une baisse de la fiscalité, ils s'attaquent au problème de l'insécurité en mettant des moyens à la lutte contre la délinquance. Ils restaurent là où elle en a besoin la laïcité républicaine. Ils favorisent le localisme. Donc, sur tous ces sujets-là, nos maires s'engagent. Nos maires, qui souvent ont été d'ailleurs les quelques maires que nous avons fort bien réélus pour un deuxième mandat, nous aspirons à avoir évidemment un grand nombre de maires, quelle que soit la taille d'ailleurs des communes concernées.
Alors, je sais que vous n'aimez pas beaucoup les chiffres, mais quel est l'objectif du RN pour les municipales de mars prochain? C'est de faire aussi aussi bien qu'en 2014. C'est mieux, bien mieux.
Non, c'est de faire mieux.
Vous avez présenté, vous aviez présenté 600 têtes de liste. Hein,
si oui, c'est de faire mieux parce que on n'a pas encore énormément de mairies gérées par le Rassemblement National et c'est vrai qu'on en a quelques-unes dans notre ligne de mire, que ce soit Marseille avec Franck Alizio, Toulon avec Laure Lavalette, Carcassonne avec Christophe Barthès, Menton avec Alexandra Masson. Je parle du Sud, je pourrais parler du Nord avec Lens, avec Bruno Clavet, Tarascon dans le Sud aussi, évidemment, avec Tanguy François, Douai avec Thierry Tesson. Il y a toute une série de villes en France de tailles différentes qui, je crois, ont envie de se doter d'un autre maire, mais surtout d'une autre politique. Nous, par exemple, on défend beaucoup la politique d'une police municipale qui soit armée dans les villes. Bah, la gauche s'oppose à Douchy-les-Mines, chez moi dans le Nord, ville que nous pouvons prendre. La mairie de gauche ne veut pas de police municipale et encore moins de police municipale armée. Et bah, nous, on en fait un axe central de notre offre politique.
En général, les municipales ne sont pas un scrutin très favorable pour vous. Le fait qu'elles risquent cette année d'être très nationalisées, est-ce que ça peut vous servir ?
Oui, évidemment, mais parce que je pense que c'est surtout la dernière étape avant l'élection présidentielle de 2027, s'il n'y a pas de dissolution. Donc l'occasion pour les Français de dire exactement ce qu'ils veulent comme type de politique, que ce soit au niveau local et quelque part en résonance au niveau national. Donc moi, je pense que beaucoup de Français s'exprimeront pour un renouvellement important. La dernière fois, avec le Covid, tous les maires quasiment avaient été réélus, quelles que soient leurs options politiques, parce qu'il y avait eu beaucoup d'abstention. Je pense que là, on ouvre davantage le paysage.
Mais on risque quand même de beaucoup penser à la présidentielle avec le procès de Marine Le Pen qui va se dérouler en janvier et février. C'est l'énorme caillou dans la chaussure du RN. Est-ce que ça ne va pas phagocyter votre campagne ?
Oui, mais vous savez, ce procès, nous continuons à l'appréhender avec sérénité. Marine Le Pen démontrera son innocence et ça ne viendra pas perturber la séquence des municipales. On fait aussi monter toute une nouvelle génération. C'est le but de Marine Le Pen, c'est d'avoir construit une génération qui porte nos espoirs. Vous verrez, on a des jeunes candidats dans l'Oise à Senlis, on en a partout en France. Et c'est ça aussi, je crois, la marque du Rassemblement National, c'est rénover la vie politique française.
Merci Sébastien Chenu.
Merci à vous.
Sébastien Chenu, donc vice-président du Rassemblement National. Merci également à vous, Nicolas Ballu, ainsi qu'à Nicolas Mathias pour les moyens techniques. Deux personnalités, mais surtout deux camps vont s'affronter à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain pour prendre la tête de la coordination rurale, devenue le deuxième syndicat agricole français après sa percée historique aux dernières élections. D'un côté, l'actuelle présidente Véronique Le Floc, 52 ans, productrice de lait bio, le visage policé, et de l'autre, Bertrand Vantaud, 46 ans, un éleveur bovin, adepte des actions coup de poing et dont le caractère, disons, entier peut parfois crisper certains de ses interlocuteurs.
Énième rebondissement d'un feuilleton long maintenant de 2 ans.
Oui, c'est aujourd'hui que le tribunal judiciaire de Nanterre doit rendre sa décision sur la suspension des ventes de Perrier réclamées par l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs argue qu'une eau vendue comme eau minérale naturelle doit être naturelle et originellement pure. Or, la microfiltration utilisée par le groupe sur ces eaux fait que celle-ci ne devrait plus pouvoir prétendre à cette appellation. Total Energy a-t-il directement financé des forces de l'armée du Mozambique soupçonnées d'avoir détenu, affamé, torturé et tué des dizaines de civils depuis hier? Le géant français des hydrocarbures est visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre. Ces exactions se seraient produites en 2021. À l'époque, une filiale locale de la multinationale avait signé avec les autorités de Maputo un accord pour que des soldats assurent la garde sur le site de l'un de ses projets gaziers, en voie d'ailleurs d'être désormais relancé après 4 années de suspension. Des soldats qui, 3 mois durant, auraient donc enfermé et battu des dizaines d'hommes dans des conteneurs, les accusant de soutenir des djihadistes.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a fini par adopter hier pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza.
Oui, 13 de ses membres se sont prononcés en faveur de la résolution. La Russie et la Chine, en revanche, se sont abstenus. Alors ce texte prévoit le déploiement d'une force internationale dans l'enclave palestinienne ravagée par plus de 2 années de guerre, mais pas seulement, car contrairement aux premières versions, l'éventualité d'un État palestinien y est également mentionné, un avenir en l'occurrence clairement rejeté par l'État hébreu. Thibault Lefebvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Jérusalem. Alors ce matin, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a salué l'adoption de cette résolution, de même que le ministère palestinien des Affaires étrangères. À l'inverse, le Hamas juge qu'elle ne répond pas aux exigences et aux droits des Palestiniens. Concrètement, tout d'abord Thibault, à quoi pourrait ressembler donc cette force de stabilisation ?
Eh bien, on connaît depuis hier soir son mandat. Cette force internationale de stabilisation doit désarmer le Hamas, démilitariser l'enclave, protéger la population et sécuriser les convois d'aide humanitaire. On connaît l'échéance de sa mission, fin 2027, et on sait qu'elle sera dirigée d'un centre de commandement américain installé sur le territoire israélien à une trentaine de kilomètres de la bande de Gaza, en coordination avec l'armée de l'État hébreu et l'Égypte. Alors, ce que l'on ignore, c'est quand elle sera déployée. Donald Trump espère au début de l'année prochaine. Et puis surtout, qui va y participer? Aucun pays n'est pour le moment directement impliqué. 20 000 soldats indonésiens seraient prêts selon Jakarta. L'Égypte, le Qatar et l'Azerbaïdjan sont aussi concernés. Mais il n'y a aucune communication officielle, en tout cas pour le moment.
Et quelles sont, par ailleurs, Thibault, les échéances à venir et ce faisant peut-être aussi d'ailleurs les limites d'ores et déjà de ce texte?
Eh bien, cette force internationale, déjà, hein, dont je vous le disais, on ne cerne pas bien le fonctionnement. Autre limite, le comité de la paix présidé par Donald Trump qui dirigera Gaza pour au moins 2 ans. On ne connaît pas ses membres ni le processus de désignation. Et son existence pose évidemment la question de la souveraineté palestinienne sur Gaza. L'enclave a désormais, selon l'ONU, un statut particulier, différent en tout cas de celui de la Cisjordanie. Ce qui là aussi entrave l'exercice d'un pouvoir palestinien sur les deux territoires. Enfin, la résolution votée hier soir ne fait référence à aucun des textes votés par les Nations Unies ces dernières décennies, comme si l'ONU, sous l'impulsion des États-Unis, voulait faire table rase du passé.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Si depuis son investiture, le très erratique locataire de la Maison Blanche nous habitue aux volte-face spectaculaires, la dernière en date n'en reste pas moins singulière, tant elle aura semé le chaos jusque dans son propre camp après avoir traité l'affaire Epstein de canular démocrate et mis la pression sur les membres du Congrès pour s'en défaire. Donald Trump s'est ravisé, vous le savez, dimanche soir, assurant vouloir finalement que les documents liés à son ami et délinquant sexuel soient publiés. Alors pourquoi? Sans doute le président américain n'avait-il pas d'autre choix en réalité que de changer de stratégie face à la fronde au sein de son parti. Nombre d'élus républicains menaçaient en effet de joindre leur voix aux démocrates pour la publication de ces documents, et notamment Marjorie Taylor Greene, une élue de Géorgie, complotiste, raciste, alliée indéfectible de Donald Trump, du moins jusqu'à sa rupture donc ces derniers jours avec le président qui l'accuse désormais de trahison. Notre envoyé spécial Timur Öztürk s'est rendu dans le 14e district de Géorgie, le fief de Marjorie Taylor Greene. Reportage.
Dans la petite ville de Lafayette, la plupart des électeurs sont républicains et ont voté à la fois pour Donald Trump et pour Marjorie Taylor Greene, comme James, embarrassé par la situation.
Je vois beaucoup de divisions dans le parti républicain, entre les gens de MAGA, qui sont des fanatiques. J'espère qu'on pourra se réconcilier parce qu'on a besoin d'être unis pour les élections.
Depuis quelques jours, Donald Trump surnomme Marjorie Taylor Greene la cinglée, la traître, l'élu se dit désormais menacé.
La chose la plus blessante qu'il a dit est que j'étais une traître. C'est le genre de paroles qui peuvent radicaliser les gens contre moi et mettre ma vie en danger.
Comme sa représentante au Congrès, James est favorable à la publication du dossier Epstein.
À mon avis, oui, il devrait l'être. De toute façon, ils se sont certainement débarrassés de tout ce qui pouvait incriminer des gens. On ne saura sûrement pas la vérité de toute manière.
Il ne soupçonne pas le président, contrairement à Mike.
Si j'avais peur de quelque chose que j'ai fait, je ne voudrais pas les publier.
La Chambre des représentants doit s'exprimer aujourd'hui sur la publication du dossier. Dans une volte-face, Donald Trump a finalement appelé les républicains à voter pour.
Un reportage en Géorgie signé Timur Öztürk. En pleine course à l'intelligence artificielle et face aux appétits des géants américains du numérique comme des plateformes commerciales chinoises, comment l'Europe peut-elle espérer avoir la main sur son destin numérique? Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz, les dirigeants donc des deux plus grandes économies européennes, veulent justement donner un coup d'accélérateur à cette ambition à l'occasion d'un sommet organisé aujourd'hui à Berlin. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur la majeure partie du pays, à l'exception des côtes de la Manche et jusqu'au nord de Paris. Quant aux températures, elles seront comprises entre 6 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Fabien Etchecopard. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.